Radio U se trouve aujourd'hui au collège Quatmes de Daoulas pour une émission autour du vaste sujet qu'est la presse. Pour commencer, je laisse la parole à Noah, Yanistan, Kylian et Timothée pour une première intervention avec la classe de 4e A.
Bonjour chers auditeurs de Radio U, bienvenue au collège de Quatmes.
Bonjour Noah, bonjour à tous. La semaine dernière au collège, nous avons accueilli un journaliste et ça nous a donné envie de parler du métier de journaliste.
Bonjour Noah, Arnaud Breton, le journaliste que nous avons accueilli, travaille dans une équipe de 3 à 4 personnes. Monsieur Breton nous a raconté qu'il avait plusieurs fois fait la course au scoop, notamment en début de carrière. Par ailleurs, en bon journaliste, Arnaud Breton nous a expliqué qu'il va vérifier toujours ses sources pour ne pas diffuser de fausses informations. Il nous a également expliqué qu'il lit souvent les articles des journaux adverses pour comprendre la concurrence et y répond de façon intelligente. Voyons maintenant comment s'organiser le travail de journaliste. Je te laisse la parole, Timothée, pour éclairer ce sujet.
Merci, Kylian. Le journaliste nous a dit qu'il travaillait toute la journée. Il doit souvent interroger certains spécialistes en fonction des sujets traités et aller parfois sur le terrain. Il vérifie plusieurs fois ses sources et recoupe ses informations.
Quels sont les inconvénients et les avantages de ce métier ?
C'est un métier qui peut être stressant, mais qui laisse également du temps libre et la possibilité d'avoir des loisirs. Le salaire est variable en fonction du statut, pigiste payé à l'article ou bien salarié d'un journal de renom.
Peut-être que ce sujet suscitera des vocations. En attendant, passez une bonne journée sur les ondes de Radio U.
Donnons maintenant la parole à Osvan, Serena, Anouk et moi-même pour notre prochain sujet.
Bonjour Charlie. Chers auditeurs de Radio U, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle émission avec Anouk qui nous parlera de la liberté d'expression et de ses limites en France, ce qu'elle devient et son importance. Nous accueillerons également Serena et Charlie qui nous feront l'honneur de débattre sur les limites de la liberté d'expression. Bonjour à vous.
Bonjour Osvan.
Bonjour Osvan.
Pour rappel, la liberté d'expression est la liberté de s'exprimer à tout moment sans se faire mal juger. Anouk, ma question est la suivante. La liberté d'expression en France aujourd'hui, que devient-elle ?
En France, la liberté d'expression est toujours un sujet d'actualité. Sur les réseaux sociaux où les gens émettent leur avis par des vidéos, des tweets ou encore dans des journaux où certains ne manquent pas d'exprimer leur avis de manière humoristique, même sur des sujets sérieux.
Et pourquoi est-elle importante ?
En France, la liberté d'expression est très importante pour chacun. Elle permet d'être informé, de s'exprimer et de lancer des débats. C'est notamment grâce à elle que ce débat a lieu.
Merci Anouk pour ce rappel très utile qui introduit à merveille le débat qui va suivre. Je laisse maintenant la parole à nos invités.
Merci Osvan. Je suis Serena, élève au collège de Quatmes en 4e A. Aujourd'hui, nous soulevons un problème peu évoqué par les médias. La liberté d'expression a-t-elle des limites ? Nous essayerons de répondre à cette question sous forme de débat.
Bonjour, je m'appelle Charlie, je suis élève au collège de Quatmes, également en 4e A. Je suis ici pour défendre la cause de Charlie Hebdo.
Abordons le sujet de ce fameux journal qui a subi un attentat en 2015. Que pensez-vous de la une de Charlie Hebdo où nous pouvons voir les ossements d'Émile, un enfant mystérieusement disparu ? Celui-ci est pendu au bout d'une canne à pêche avec comme titre « Émile, le nonos qui excite la meute ». Bien que cette une suive l'actualité, dépasse-t-elle les limites de la liberté d'expression ?
Je pense que cette une est totalement inappropriée. On ne rigole pas de la mort de quelqu'un et encore moins celle d'un enfant. Faire du buzz sur la mort de quelqu'un et faire passer ça pour de l'humour en prenant pour excuse la liberté d'expression décrédibilise totalement les journaux utiles qui informent les Français.
Je ne suis pas d'accord avec toi. Je pense que c'est normal pour un journal satirique, que c'est le but du journal de faire des blagues, et même si elles sont violentes et déplacées, il s'agit de le provoquer. Ça reste du second degré et de l'ironie.
Honnêtement, ce type d'humour est totalement déplacé et ne fait rire personne. Il faut penser à la famille de cet enfant et aux conséquences de ses dessins. Personne ne prend plaisir à regarder cette horrible caricature.
Oui, mais cela plaît aux gens, car l'entreprise vend beaucoup de journaux, même si c'est déplacé. Si les gens achètent et lisent leurs journaux, c'est qu'ils y trouvent un intérêt. Et puis c'est de l'humour de toute façon. Ça n'a pas d'importance car ce n'est pas la vérité.
Leur journal cible une minorité de personnes qui, pour une raison que l'on ignore, apprécient leurs journaux. Cela reste donc déplacé, de mon point de vue.
Je pense qu'il faut prendre du recul et, en effet, cela n'est pas toujours possible. Mais je pense aussi que pouvoir rire de tous les sujets, même douloureux ou tragiques, est l'expression de notre liberté. Il s'agit parfois de provoquer pour dénoncer, lancer des débats, faire évoluer la société. Le rire comme le crayon ne peuvent-ils pas être une arme ?
La liberté implique une responsabilité, celle de ses actes. Par ailleurs, la liberté est limitée par les lois de notre société. Par exemple, si par ma liberté je mets en danger ou je dérange quelqu'un, je peux être poursuivi pénalement.
Le respect des autres est une limite essentielle à cette liberté d'expression. Merci de nous avoir écoutés sur les ondes de Radio U, et surtout merci à Serena et Charlie pour ce débat. Merci à chacun d'avoir participé à cette discussion, et merci pour votre écoute. On se retrouve pour le prochain épisode.
À bientôt, chers amis. Nous accueillons maintenant Harmonie, Owen, Armand et Youen.
Bonjour Charlie, je m'appelle Harmonie Dumont. Notre chronique du jour sera consacrée à la définition du complotisme. Je laisse la parole à Owen.
Merci Harmonie. Bonjour à tous. Le complotisme, c'est la manière propre aux complotistes d'interpréter tendancieusement les événements. On parle de théorie du complot. Armand, peux-tu maintenant nous donner la définition de ce qu'est un complotiste ?
Bien sûr Owen, un complotiste se dit de quelqu'un qui recuse la version communément admise d'un événement et recherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot mené par une minorité active.
Merci pour ces définitions, Owen et Armand. En quoi le complotisme a-t-il un lien direct avec la liberté d'expression UN ?
Le complotisme touche aux limites légales de la liberté d'expression. Le négationnisme, le racisme, l'antisémitisme et le discours de haine en général, ainsi que la citation au terrorisme. Il affecte les valeurs de la République et pose un véritable défi à l'esprit critique et démocratique. A bientôt sur les ondes de Radio EU. Merci pour votre écoute.
Pour la suite de cette émission, on va écouter Maximilien et Julien.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons débattre sur le thème de l'infox.
Bonjour Maximilien. Info et intox, quelle différence ?
Tout d'abord, l'information est un fait vérifié adressé à un public.
L'intox est une information fausse, tendancieuse, mensongère ou non vérifiée qui se fait passer pour vraie. Elle est souvent utilisée comme le contraire d'une info. Comment peut-on être manipulé ? On peut être manipulé de diverses façons, par une image, un son ou du texte. Pour mieux s'y retrouver, peux-tu nous expliquer, Maximilien, comment reconnaître une intox ?
Bien sûr, Julien. On peut commencer par observer les détails, le titre, les dates et la structure du site. Dans les fake news, le titre est souvent accrocheur, peut être écrit en majuscule avec des points d'exclamation. Si l'article ne mentionne pas de date ou de lieu précis, il y a de quoi douter. A ton avis, Julien, comment peut-on vérifier qu'une source est fiable ?
Pour vérifier si une source est fiable, on peut s'assurer de la crédibilité d'un site internet pour sa réputation. Certains publient des articles parodiques comme le Gorafi ou Nordpresse. En cas de doute, l'outil Décodex proposé par Le Monde permet de vérifier la fiabilité d'une source d'information. Quelle source d'info privilégier ?
On peut privilégier les sources d'information reconnues, comme celles du ministère, des revues scientifiques ou des ONG. Elles se repèrent avec des URL telles que .gouv.fr, .org, .asso.fr. Les blogs et les sites personnels seront à regarder avec plus de vigilance.
On peut également varier les sources d'informations en consultant d'autres articles sur le même sujet. On peut comparer et croiser les données si une même information est évoquée à plusieurs endroits en citant les mêmes sources. Il est plus probable qu'elles soient vraies. Quelles sont les autres façons de s'assurer de la fiabilité des infos et des faits des images ?
Une autre possibilité est de décrypter les images. Trouver la source d'une image pour la contextualiser, être attentif à sa construction, ou encore utiliser des moteurs de recherche d'images inversées comme Google Images, pour vérifier qu'une image n'est pas détournée.
Il est possible de distinguer les objectifs de l'article. En effet, les informations visent à informer de manière impartiale et objective, tandis que les intox sont souvent un objectif de manipulation, de désinformation ou de propagande. Quelles sont donc les meilleures postures à adopter, Maximilien ?
Enfin, sur Internet et les réseaux sociaux, tout le monde peut créer et diffuser des informations. Il est donc essentiel d'adopter une posture d'enquêteur pour vérifier la fiabilité de l'information. En cas de doute, on évite de liker et partager pour ne pas donner plus de visibilité aux fake news.
En espérant que vous adopterez ces bonnes pratiques pour distinguer info et intox et avoir ainsi un esprit éclairé.
A bientôt sur nos ondes de Radio U.
La parole passe à Max et Maxime pour la suite de notre émission.
Bonjour chers auditeurs de Radio U. Bonjour Maxime.
Bonjour Max. Bonjour à tous. Ensemble, nous allons parler de la crise des médias.
À l'échelle mondiale, la diffusion payante des journaux chute de 2% en moyenne chaque année. Certains en viennent à se demander si la presse écrite serait pas une activité du passé. Un média de l'ère industrielle en voie d'extinction. Mais quelles sont les causes de cette crise des médias, Maxime ?
Les causes externes de cette crise sont connues. D'une part, l'offensive ravageuse des quotidiens gratuits. En France, en termes d'audience, 20 minutes est déjà en tête et touche plus de 2 millions de lecteurs par jour en moyenne. Loin devant, Le Parisien est un autre gratuit. Métro, lu chaque jour, ils drainent vers eux d'importants flux publicitaires. Les annonceurs ne distinguent pas le lecteur qui achète son journal de celui qui ne le paye pas.
L'autre cause externe est bien sûr Internet, qui poursuit la fabuleuse expansion. Au cours du seul premier trimestre 2004, plus de 4,7 millions de nouveaux sites web ont été créés. Mais pourquoi ce désamour de la presse, Maxime ?
Dans les pays développés, beaucoup délaissent la lecture de la presse et même la télévision pour l'écran de l'ordinateur.
Il y a aussi le phénomène des blogs ainsi que les réseaux sociaux, si caractéristiques de la chute du web qui mélange parfois sans complexe informations et opinions, faits vérifiés et rumeurs, analyses documentées et impressions fantastiques.
Leur succès est tel qu'on se trouve désormais dans la plupart des journaux en ligne. Cet engouement montre que beaucoup de lecteurs préfèrent la subjectivité et la partialité assumées de certains blogueurs ou utilisateurs de réseaux sociaux à la fausse objectivité et à l'impartialité hypocrite d'une certaine presse. Et avec le téléphone portable, l'information devient encore plus mobile et plus nomade. On peut savoir à tout moment ce qui se passe dans le monde. La conséquence, tous les lecteurs d'informations en dehors d'Internet perdent de l'audience. Tant la concurrence entre médias est devenue sévère.
Cette crise a aussi des causes internes qui tiennent principalement à la perte de crédibilité de la presse écrite.
Pourquoi ça, Max ?
En premier lieu, parce que la presse appartient de plus en plus à des groupes industriels qui contrôlent le pouvoir économique et sont souvent en connivence avec le pouvoir politique. Et aussi par le parti pris, le manque d'objectivité, les manipulations diverses et même les fake news qui ne cessent d'augmenter. Gardons donc l'esprit aiguisé et critique. Merci de nous avoir écoutés. Au revoir.
La parole est donc maintenant à Sacha, Lucas et Julie.
Bonjour chers auditeurs de Radio U. Comment parler de presse sans parler des médias ? Dans un premier temps, définissons le mot « média ». Un média est un procédé permettant la distribution, la diffusion ou la communication d'œuvres, de documents, de messages sonores ou audiovisuels. Je vais maintenant laisser la parole à Lucas qui va vous présenter les différents types de médias.
Bonjour Sacha, nous pouvons commencer par les médias de communication. Les médias de communication sont des médias traditionnels comme la presse, la radio, la télévision, le cinéma ou l'affichage. Je laisse Julie poursuivre.
Merci Lucas. Poursuivons avec les médias sociaux. Un média social est une application web qui permet la création et la publication de contenus générés par l'utilisateur et le développement de réseaux sociaux en ligne. Comme Instagram, LinkedIn, Facebook, WhatsApp, Snapchat sont des exemples de médias sociaux.
Actuellement, 5 supports se démarquent des autres. Télévision et cinéma, presse écrite, radio, internet, affichage. Ces supports sont aussi appelés des médias de masse.
En espérant vous avoir éclairé sur le sujet, nous vous laissons avec la suite de l'émission.
Pour en apprendre encore plus, la parole est à Lisène, Anaï et Jérémy.
Bonjour chers auditeurs, aujourd'hui notre émission Radio U portera sur la liberté d'expression dans le monde. Qu'est-ce que la liberté d'expression, Anaï ?
La liberté d'expression est le droit de s'exprimer, d'avoir son opinion, d'informer et d'être informé.
Est-ce qu'il y a la liberté d'expression en France, Anaï ?
En France, nous sommes en démocratie. La République possède des valeurs laïques. Nous avons beaucoup de libertés telles que la liberté de croyance, d'information et ailleurs dans le monde, Jérémy.
Malheureusement, il existe des pays ne possédant pas ces droits, tels que l'Afghanistan, la Russie ou la Corée du Nord, par exemple.
En effet, certains pays sont soumis à une dictature. Les habitants de ces pays sont souvent pauvres et n'ont pas le droit de s'exprimer librement. Aujourd'hui, il existe encore malheureusement des personnes se faisant exécuter pour leur opinion, religion ou attirance sexuelle.
En effet, la liberté d'expression est un droit à protéger. Restons vigilants.
Pour conclure notre émission en beauté, nous vous proposons un débat fictif à la frontière de la fiction et du théâtre. Attention, les personnages et les événements évoqués dans ce podcast sont totalement fictifs.
Bonjour et bienvenue sur le plateau de Liberté, Égalité, Féminité, dans ce nouvel épisode sur le féminisme. Je m'appelle Jeanne et je serai la présentatrice de cette émission. Je suis aujourd'hui accompagnée du membre actif du mouvement MeToo, Rachel.
Bonjour.
Mais dites-nous Rachel, qu'est-ce que le mouvement MeToo ?
Le mouvement hashtag MeToo est un mouvement social encourageant la prise de parole des femmes, dans le but par exemple de faire savoir que le viol et les agressions sexuelles sont plus courants que ce qui est souvent supposé, et de permettre aux victimes de s'exprimer sur le sujet.
Merci. Je suis également accompagnée du membre active du mouvement Women Against Feminist, autrement dit Femmes contre le féminisme, Marianne.
Bonjour.
Et vous, expliquez-nous qu'est-ce que le mouvement Women Against Feminist ?
Le mouvement Women Against Feminist est un mouvement contre le féminisme et le droit des femmes.
Je suis également accompagnée d'une jeune femme de 25 ans, mère de famille, tout droit venue du Maroc, qui souhaite aujourd'hui garder l'anonymat. Bonjour.
Bonjour.
Pour commencer, je vais vous demander de donner votre définition du féminisme. Commençons par Rachel.
Le féminisme, comme c'est écrit dans le dictionnaire, est un mouvement qui lutte pour l'égalité entre les hommes et les femmes. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, du vote, du salaire, de la place dans la société ou de la politique. Mais selon moi, le féminisme est une nécessité, une priorité. Je trouve choquant les personnes qui pensent que ce n'est pas essentiel ou nécessaire. Le féminisme, c'est la base même d'une société en bonne santé.
Très bien, merci. Passons à Marianne.
Le féminisme, c'est n'importe quoi. Pourquoi elles veulent l'égalité homme-femme, ça n'arrivera jamais. Les hommes sont supérieurs aux femmes et c'est très bien comme ça. Nous, les femmes, sommes très bien à la cuisine et à faire des enfants. Et après, on se plaint. Mais c'est les hommes qui ramènent de l'argent et qui travaillent. On a juste à faire chauffer des casseroles et après, on se plaint. C'est absolument n'importe quoi. Les femmes ont le droit à l'avortement, mais ne demandent pas l'accord à leur mari ou à leur conjoint. C'est absurde. Les hommes, eux, sont partis au front pendant que nous, les femmes, nous restions à la maison à rien faire. Et après, on vient se plaindre de l'égalité. Mais quelle idiotie !
Merci de votre intervention. Nous allons donc passer à la mère de famille.
Pour moi, le féminisme est le fait de faire entendre notre voix de femme et de faire respecter nos droits, salaires, métiers et la répartition des tâches à la maison.
Merci. Je reviens à vous, Rachel. Depuis quand le féminisme existe-t-il ?
Le féminisme existe depuis toujours, mais il a été souvent mis de côté à cause du patriarcat. Cependant, je veux bien vous donner quelques dates importantes du féminisme, si vous le souhaitez.
Allez-y, je vous en prie. Mais avant, pouvez-vous nous donner la définition du patriarcat ?
Bien sûr. Le patriarcat est une organisation sociale dans laquelle les hommes monopolisent le pouvoir et dictent les règles. C'est un mouvement qui existe depuis l'Antiquité. Le terme patriarcat vient d'ailleurs du latin pater qui signifie père. Car à cette époque, c'était justement les hommes qui étaient les chefs de famille. Ils avaient le pouvoir sur leurs femmes et les enfants, l'argent, etc. Cette idée a été renforcée à travers le temps par les religions.
Et pouvez-vous donc nous donner quelques dates par rapport à cela ?
Sachez déjà qu'avant 1924, les femmes apprenaient encore la cuisine et la couture à l'école et qu'il a fallu attendre 1965 pour que les femmes puissent ouvrir un compte en banque et travailler sans l'autorisation de leur mari. Et aujourd'hui, aucune femme en France n'a encore été chef d'État.
C'était mieux avant.
Mademoiselle, calmez-vous, je vous prie, et n'interrompez pas les autres invités.
Ne vous en faites pas, j'avais terminé.
Je suis venue ici pour exprimer mon opinion. C'est mon droit et ma liberté.
Mademoiselle, s'il vous plaît.
C'est madame, pas mademoiselle. Je suis mariée.
Mais quel âge avez-vous ?
19 ans. J'ai deux enfants. En tant que femme, je dois offrir un héritage stable à mon mari.
J'ai 25 ans, 6 enfants, sauf que moi, je ne l'ai pas souhaité.
Votre mari en a de la chance.
Mais moi, je n'en ai pas. J'étais victime d'un mariage forcé et depuis, j'ai un enfant par an depuis mes 19 ans.
De toute façon, c'est de la faute des femmes si elles tombent enceintes. Pas celle de leur époux.
Bon, ne rentrons pas dans ce type de débat maintenant. J'aimerais savoir pourquoi vous vous battez pour le féminisme.
Je suis mère de 6 enfants et je reste chez moi toute la journée pour m'occuper de mes plus jeunes et de l'entretien de mon foyer. Pour cause, mon mari étant très misogyne, il estime que ce n'est pas son rôle de s'occuper de nos enfants ou de s'occuper de l'entretien de notre maison. Bien évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce point de vue, mais si j'ai le malheur de le contredire, il s'énerve. Mes journées sont rythmées de pleurs venant de mes jumeaux et d'entretien de ma maison et de cuisine. Si cela n'est pas fait quand il rentre, il s'énerve, claque les portes et peut devenir violent envers nos enfants. S'il était amené à apprendre que je suis ici en train de vous dévoiler mon quotidien, il entrerait dans une colère si noire que je n'ose imaginer. Ma famille étant très religieuse, pour cause, je n'ai aucun cas le droit d'avorter. Rien d'y avoir pensé est déjà haram, car cela interfère avec la volonté d'Allah, notre Dieu, qui seul a droit de vie ou de mort. J'ai demandé une fois l'autorisation à mon mari, qui celui-ci m'a répondu que ce n'était aucun cas son problème ou sa faute si j'étais tombée enceinte.
Mais arrêtez de vous plaindre, vous ennuyez tout le monde avec vos soi-disant problèmes.
Marianne, je vous prie de bien vouloir la laisser finir.
Chacun a son avis, mais je ne suis absolument pas d'accord avec elle, car les femmes ne sont pas assez écoutées. Pour que les personnes comme Marianne comprennent ce qu'on vit en tant que femme.
Je suis une femme aussi, donc je sais ce qu'on vit. Une vie tout à fait normale, qui se passe devant des fours. C'est cool, on n'a rien à faire.
S'il vous plaît, taisez-vous, vous me fatiguez.
Vous osez m'insulter, mais vous êtes une femme, donc vous n'avez pas à me dire quoi faire. Ce sont les hommes qui doivent le faire.
Bon, J'espère que l'émission vous a appris des choses utiles. Bonne journée, au revoir. Merci de nous avoir écoutés.
Au revoir, j'étais contente de venir.
Au revoir, merci de nous avoir invités sur Liberté, Égalité, Féminité.
C'était très nul, mais en même temps, c'était pour le féminisme. Je sais même pas pourquoi je suis venue.
Notre émission consacrée au monde de la presse, des médias et à la liberté d'expression touche à sa fin. Nous remercions tous les participants de cette émission, mais aussi les encadrants. Nous remercions également Radio U et Flavie pour leur professionnalisme. Au revoir et à bientôt sur les ondes.